Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et bien sûr, de 20h à 21h, comme chaque soir, c'est le débrief de l'Actu Tech. Et ce soir, en plateau, nous avons Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut à tous.
Journaliste à BFM Business. Je n'ai même plus besoin de vous le présenter. Nous avons aussi Yves Metz. Salut Yves.
Bonsoir.
Operating Partner Jol Capital et consultant, ancien PDG de HTC, qui nous fait l'amitié d'être là régulièrement. Et puis Didier Sens ce soir. Salut Didier.
Hello.
Journaliste tech. Messieurs, est-ce que les sujets vous vont ce soir? On a pas mal de choses à évoquer. Hein.
Oui, il y a du matériel.
Il y a du matos, comme on dit. Et on va commencer par le DMA. On est à l'aube, en fait, d'une révolution en termes de numérique en Europe, avec ce DMA. Ce Digital Market Act qui entre en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit. Et on va en parler avec notre invité exceptionnel que je suis très heureux d'accueillir en visio. Il s'agit de Léa Zuber. Bonsoir Léa Zuber.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole donc au sein de la Commission européenne pour les règles de la concurrence. Et en regardant un peu votre pédigré, vous êtes l'une des, on va dire, des spécialistes du DMA. Hein. C'est vous qui, j'imagine, avez mis en place avec, évidemment, Thierry Breton et puis toute votre équipe, tout ce qui va être appliqué à partir de la nuit de jeudi à vendredi.
23h59.
Voilà, 23h59, ce sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Est-ce que tout est prêt, Léa Zuber? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui est en train de se tramer et qui va arriver là, dans quelques heures?
Oui, bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, je dirais tout est prêt, comme vous avez dit. On a encore un jour et quelques heures. Évidemment, c'est un très grand jour pour nous que la mise en conformité est finalement là. Mais évidemment, pour nous, c'est déjà un long processus qui était déjà mis en place. Donc, on avait déjà fait le travail pour identifier les contrôleurs d'accès. Donc, ça, on a fait en septembre l'année dernière. Ouais. Et déjà, ça fait déjà un an qu'on discute sur les solutions avec des différentes compagnies, avec des différents contrôleurs d'accès. Donc tout est prêt. Finalement, ce qui va changer pour nous, en fait, dans quelques jours, c'est qu'on va finalement avoir une décision finale de part de gatekeepers, des contrôleurs d'accès. Mmh. Donc on va savoir ce qu'ils vont mettre en place. On va recevoir cet rapport, ce qu'ils vont faire, où ils doivent vraiment décrire tout ce qu'ils ont mis en place, obligation par obligation pour appliquer le DMA, et aussi ce que va être disponible demain, j'espère, pendant la journée. C'est un petit résumé non confidentiel que tous les gatekeepers vont publier, et comme ça tous les parties intéressées vont aussi pouvoir voir toutes les mesures qu'ils ont mises en place.
Alors c'est un sujet, vous l'imaginez, que nous suivons à la loupe depuis plusieurs semaines dans Tech & Co sur BFM Business, parce qu'on on prend quand même l'importance, hein, de ce sujet qui est capital aujourd'hui. On est à l'aube d'une vraie révolution numérique au niveau européen. Est-ce que vous êtes satisfaite des premières propositions de ces gatekeepers, justement, que ce soit Google, Microsoft et notamment Apple, qui visiblement ne met pas tout le monde d'accord dans leur version du DMA?
Mais oui, c'est difficile. Je pense que ce qu'on est, on est content avec l'engagement que toutes les compagnies ont fait. Donc, on a beaucoup discuté de différentes solutions. Et je vais rien dire encore sur les solutions qu'ils ont là. On va, comme j'ai dit, analyser maintenant tout ce qui est proposé. Et on va vraiment prendre des mesures si nécessaire. Si on n'est pas content, on a vraiment des outils à notre disposition pour prendre les mesures. Et juste pour dire que vous mentionnez que c'est une révolution, et comme je dis, c'est vraiment le DMA, c'est très très important. Mais nous, on va on essaye avec ce acte de créer des opportunités. On veut vraiment ouvrir les écosystèmes, on veut vraiment créer des possibilités pour les concurrents, pour les utilisateurs
et pour les citoyens aussi, parce que en fait l'un des principes du DMA, c'est de pouvoir donner le choix en fait aux citoyens. Prend l'exemple d'Apple et du store d'Apple. Oui, auparavant, oui. On était bloqué dans un store qui appartenait à Apple et on n'avait que cette porte d'entrée finalement pour télécharger des applis. Là, si tout va bien et si finalement des stores alternatifs acceptent de venir, on aura le choix en fait. C'est la possibilité d'offrir plus de choix aux citoyens.
Oui, tout à fait. Donc nous, on va vraiment créer cette opportunité, on va ouvrir les portes et on espère vraiment que les autres, comme vous avez mentionné les App Store, qu'on va avoir des offres alternatives et que les utilisateurs aussi vont aussi faire d'autres choix. Mais une fois que le marché est plus ouvert et plus contestable. Évidemment, les offres peuvent se différencier. On va avoir plus, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un va mettre plus d'importance de fournir un service plus rapide. D'autres va inventer des autres choses. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec le DMA.
Didier Sens, qui est sur ce plateau, vous vous posez une question.
Oui, alors on comprend bien que vous allez appliquer une série de mesures qui sont faites effectivement pour favoriser la concurrence, simplifier la vie des utilisateurs. On peut se demander si, vu les réactions qu'on a rencontrées ces jours-ci, si ces acteurs, ce que vous appelez les gatekeepers, vont tous jouer le jeu. Et dans le cas contraire, quelles mesures vous avez envisagées et surtout comment allez-vous contrôler, comment allez-vous surveiller que ces mesures seront respectées par ces grandes marques de la technologie?
On a déjà l'expérience d'appliquer les règles, par exemple les règles de la concurrence. Donc on a vraiment beaucoup des outils pour poser des questions additionnelles aux compagnies, de discuter avec eux. Mais ce qui est très très important pour nous aussi, c'est d'avoir le feedback de tous les parties intéressées en fait, de tous les entreprises utilisatrices, de tous les utilisateurs, et c'est pour ça qu'on va aussi comme j'ai déjà mentionné, on va avoir ces résumés qui vont être accessibles à tout le monde, et on va aussi organiser des ateliers, des workshops dans la semaine de 18 mars où on espère qu'on va avoir les gatekeepers qui vont venir, qui vont expliquer tout ce qu'ils ont fait. Et nous aussi, on va avoir le feedback de tout le marché, de tous les parties intéressées, qui, je suis sûre, vont nous dire sans hésitation qu'un truc ne marche pas et l'autre peut marcher, l'autre peut s'améliorer.
Alors justement, Léa Zuber, s'il y a un truc qui ne marche pas, comme vous dites, et que par exemple, Apple, je prends cet exemple, mais c'est vraiment un exemple, on pourrait parler Microsoft, Google, ne va pas assez loin dans son ouverture à la concurrence et que ce DMA finalement est un peu fade. Quelles sont les mesures que vous pourriez prendre, c'est-à-dire obliger Apple à aller plus loin, en fait, à s'ouvrir encore plus?
Oui. Si on fait une enquête. Et si on trouve... OK, je ne parle pas déjà d'une infraction, mais évidemment, comme j'ai dit, on regarde ça comme un dialogue, un processus. Donc, on peut tout à fait demander les gatekeepers pour changer les solutions pour s'améliorer. Si ça ne marche pas, on peut toujours trouver une infraction, on peut imposer des amendes. Donc voilà, mais on espère qu'en travaillant ensemble avec les gatekeepers et avec toutes les parties intéressées, on peut vraiment améliorer les solutions proposées.
Vous pensez qu'on peut encore les améliorer?
Vous pensez avant demain?
Oui, non, peut-être pas avant demain, mais est-ce qu'il y aura un chapitre 2 du DMA avec peut-être, après d'autres discussions intenses, avoir d'autres, on va dire, d'autres solutions qui pourraient arriver et d'autres ouvertures ?
Non, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas one-off. Donc, les plateformes, ils doivent nous fournir ces rapports une fois par an. Mais c'est vraiment, je ne sais pas, si on voit dans 2-3 mois que quelque chose ne marche pas, évidemment, c'est vraiment un processus où on va faire le monitoring non-stop, en fait.
D'accord.
Donc voilà, ça ne veut pas dire si quelque chose ne marche pas ce samedi que ça doit rester là maintenant pour des années. On peut vraiment bien le changer.
Vous pourriez être réactif, par exemple, s'il faut modifier quelque chose, on ne serait pas obligé d'attendre de longs mois ou de longues années avant qu'il y ait des modifications. C'est ça,
pas du tout, pas okay. du tout. Ça, c'est juste le cas si on veut changer les règles, si on veut changer le DMA, mais pas pour les solutions qui ont été mises en place.
C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous estimez que certains ne respectent pas les règles que vous avez imposées. Là, ça pourrait aller plus vite, c'est ça.
C'est ça, oui.
Frédéric Simotel.
Oui, bonsoir. Il y a cette partie régulation, et puis moi je regarde ça aussi d'un autre regard. On parle abus de position dominante de ces contrôleurs d'accès. Ça veut dire qu'il y a des dominés, mais les dominés ils sont très très loin. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit aussi accompagner de l'autre côté des acteurs européens à émerger, parce qu'aujourd'hui le souci de alors on comprend et on applaudit le fait de casser un peu cette hégémonie de ces géants, c'est que l'offre à côté, on n'en a pas. Donc est-ce que au niveau européen, vous pensez qu'il y a des mesures aussi qui pourront être mises en place pour accompagner des entreprises, des dominés aujourd'hui, pour essayer de se hisser à la hauteur de ces géants?
Tout à fait. Donc nous, ce qu'on fait avec le DMA, et comme j'ai déjà dit, on donne vraiment de la place, à mon avis, aux entreprises de grandir, de prendre leur partie de marché. Mais comme vous dites, c'est juste un élément parmi plusieurs, et tout à fait, on a des autres mesures qu'ils ont peut-être pas encore finalisées, qu'on discute comment on peut soutenir les entreprises pour grandir plus vite.
Très bien, merci beaucoup Léa Zeuber d'avoir pu vous libérer quelques minutes. J'imagine qu'en plus là, en ce moment, vous avez pas mal de travail. Rappelons que vous êtes porte-parole au sein de la Commission européenne pour les règles de concurrence. Et on attend avec impatience donc l'arrivée de ce DMA dans quelques heures en Europe. Merci beaucoup. Messieurs, première réaction, est-ce que on est à l'aube, comme je disais tout à l'heure, d'une vraie révolution numérique en Europe, Yves ?
Oui, là.
Le micro. On va allumer le micro d'Yves, ça marchera bien.
Ok. Voilà. Bonjour, je suis désolé pour ce micro.
Mais c'est pas grave,
Oui, non, je pense qu'il y a un mot qui a été employé par toi et puis par Léa, qui est le mot révolution. Et évidemment, ce mot est un peu galvaudé parce que tout le monde, maintenant, toute chose, c'est une révolution. Tout est une révolution. Et je pense que je voudrais essayer de remettre, avant qu'on commence le débat, si ça ne te dérange pas, un peu en perspective ce qui est en train de se passer, donc en regardant de très très loin. Alors j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour que la majorité des gens qui nous regardent ce soir puissent avoir une analogie qui permette de regarder les choses. Donc il y a le monde réel dans lequel on est, et puis il y a le monde digital dans lequel on est aussi à travers son smartphone. Et j'aimerais revenir au début de la révolution industrielle dans le monde réel. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque, en 1800, 1900, début, Zola,
oui, Jaurès,
je pars très loin. Eh bien, les gens qui étaient dans des industries, je vais prendre l'industrie de la mine dans le Nord, okay, puisqu'une partie de ma famille était de cette région-là et mineur de fonds. Eh bien, il y avait des entreprises, des grosses mines, okay, des grosses entreprises, qui dirigeaient l'intégralité de la vie des familles qui travaillaient, dont les employés travaillaient à la mine. Donc il y avait la maison qui était fournie, bien sûr le salaire, la maison était fournie, les écoles étaient fournies, les clubs sportifs étaient fournis, les médecins étaient les médecins de la mine, etc. etc. Donc on était dans un monde fermé.
Paternaliste.
Fermé, paternaliste, fermé. Ce qu'on appelle, les Américains appellent le wall garden. Eh bien aujourd'hui, dans le monde du digital,
C'est la même chose. Et à la place que ça s'appelle la mine, on a le monde Apple pour les smartphones et le monde Android. Point à la ligne. Ce qui n'est pas le cas dans certaines autres zones géographiques, entre autres dans certains pays d'Asie.
Oui, okay, en Chine,
en
notamment.
Chine, par exemple. Okay. Mais nous, on est dans ce cadre-là. Donc on est soit dans la mine Apple, soit dans la mine Google. Et on ne peut pas en sortir.
Ce que fait, et on alors, ne... on peut en sortir. On peut...
Non, on ne peut pas en sortir.
Bah, on peut switcher de la mine Apple et aller...
Tu peux aller de la mine Apple à la mine Apple. Mais tu es dans la même... type de structure. Ouais. Alors tu préfères avoir un costume comme ça ou avoir un costume autrement, mais en attendant, t'es quand même obligé, t'es coincé dans le costume qu'on t'a donné. Okay. Ce que fait le DMA, okay, il dit on casse ça. Vous pouvez rester dans votre coron, vous pouvez rester dans votre mine, vous pouvez rester dans votre club de foot, vous pouvez garder votre médecin.
Mais si vous en avez envie, vous avez la possibilité de
changer. Vous avez la possibilité de changer. Et c'est pour ça que c'est une révolution. Comme il y a eu dans les années, dans 30, etc., il y a eu des révolutions avec des mouvements sociaux, mm-hmm. Bien là, c'est la Commission européenne qui fait ça. Et je trouve que ce soit l'Europe qui reprenne des idéologies, parce que c'est une idéologie du libre marché, c'est une idéologie de la liberté, et qui disent, vous avez la liberté dans le monde de l'Internet, comme on vous a donné dans le monde du travail, à un moment donné, la possibilité de changer, et bien moi je trouve que c'est en effet une révolution dans ce monde-là.
Le micro de Fred, s'il vous plaît, messieurs. Alors, voilà.
Pour aller où ?
Alors, pour aller où ? C'est la bonne question, parce que c'est vrai, remettons-nous en 1910 ou en 1920, vous êtes mineur de fond. Pourquoi je vais changer de club de foot ? Pourquoi je vais changer de médecin ? Je veux dire, il n'y a pas de voiture ou très peu de voitures. Donc aller dans l'autre club de foot, ça veut dire y aller à pied. Alors que le club de foot, il est à côté, l'école est à côté, le médecin, il est à côté. Donc pourquoi changer ? Bah, en effet, donc on reste. Mais petit à petit, génération après génération, il y a des voitures qui arrivent, il y a des clubs de foot plus compétitifs, il y a des médecins différents, il y a des hôpitaux spécialisés, etc., etc. Et donc petit à petit... La structure d'ouverture, la liberté donne d'autres possibilités. Si tu demandes tout de suite, bien sûr, tout de suite, en effet, pourquoi changer ? La vie est simple, on a tout.
Juste un mot pour rajouter à ça. Oui, bien sûr, où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, c'est qu'on est dans un univers, j'arrive pas de le dire, de rapidité, notamment on le voit avec l'IA, et enfin. C'est, oui, c'est bien d'avoir ces règles-là, mais changer, alors on voit ça sur un long terme, mais il faudrait que le changement soit, enfin, ce vers qui on doit changer soit déjà là, parce que ça va tellement vite que
moi je suis prêt, mais
on n'aura plus jamais personne pour changer.
On parlera de l'IA dans le DMA, parce que je pense que c'est exactement le bon moment de faire le DMA, parce que l'AI arrive et qu'il faut qu'on ait une liberté d'AI. Moi je ne veux pas avoir l'AI d'Apple.
Quantique et Web 3 aussi.
Oui, et puis on ouvre une faille, en fait, qui était on va dire, impossible à réaliser. Hein. Je veux dire, qui aurait pu imaginer qu'on allait imposer, nous, Européens, à Apple, d'avoir un store alternatif ? C'est quand même une vraie révolution. Et je pense qu'Apple doit mal vivre ce moment-là. Didier ?
Oui, alors, effectivement, Fred, il pose une bonne question, mais je pense que c'est...
Ça lui arrive, c'est rare, ouais. Mais ça lui arrive.
J'ai pas la réponse, par contre.
Le fait qu'il n'y ait pas d'alternative, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, justement, réguler. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est la première étape. La première étape, c'est de dire aux gens, aux GAFAM, c'est pas le Far West ici, vous faites pas n'importe quoi, il y a des règles
à respecter. Mais du coup, il faut accompagner, il faut motiver les autres aussi.
Ah non, mais attends. Ouais. Déjà, on leur dit, voilà, les barrières, c'est ça. Vous avez le droit de faire ça, ça et ça, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il se trouve que dans ces barrières, il y a des méthodes qui permettent de favoriser la concurrence. Tant mieux. Qui sait si demain, il n'y aura pas un pseudo Google qui va émerger et puis qui va réussir malgré tout en fédérant différents services européens à se hisser au niveau de... On l'a vu avec Airbus, on l'a vu encore une fois, on a vu dans les géants de l'énergie.
Mais ça, j'y
l'énergie.
Crois, mais un peu par rapport à ce qu'a dit Yves, j'y crois, mais dans Web3, IA, oui, quantique, oui, voilà. Oui. Mais le reste, oui. Faut pas aller chercher sous le moteur de
recherche. Oui, pourquoi
il
pas.
Faut se lancer
oui,
sur...
Oui,
et le problème, tu penses qu'un acteur européen pourrait créer un Google et concurrencer Google aujourd'hui ?
Alors, l'expérience a été faite déjà, je sais pas si vous rappelé de, il y avait Quero, il y avait tous ces trucs-là qui ont été faits justement pour concurrencer Google, ça n'a jamais marché.
Moi, je me souviens de Quant aussi, c'était pas une réussite. Hein.
Alors, qui est aussi
une émanation de Quero.
Une émanation de Quero. Mais ça n'a pas marché, pourquoi ? Parce qu'il y a des égos, des politiques nationales, etc. Ouais. Ce qui a marché avec Airbus, c'est qu'à un moment, il y avait un vrai enjeu industriel économique fort. Là, on a l'impression que les industriels européens sur le numérique se sont dit bah autant passer à autre chose puisque là on a perdu la partie.
On en revient à la cause nationale. Enfin, on a eu des échanges avec Yves il y a quelques jours hein, sur la cause nationale d'avoir un grand réseau, une grande infrastructure, une infrastructure réseau, une infrastructure pour des processeurs, une infrastructure logicielle.
Oui, ça c'est pour l'IA, c'est un autre sujet, on y reviendra et on réfléchit à faire une émission spéciale là-dessus.
C'est un peu lié au DMA, parce que justement, si le DMA permet...
Si on accueillait Nathan Cocapo, qui attend depuis une demi-heure derrière sa petite caméra.
J'avais oublié.
Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Et c'est vrai qu'avec Nathan, chaque soir, on s'intéresse à une partie du DMA. On a beaucoup parlé d'Apple ce soir, mais l'un des autres grands géants de la tech, c'est Google, Nathan Cocapo, qui lui aussi va être régi par le DMA.
Oui, comme tout le monde. Premier changement notable, la disparition de Google Maps lors de la recherche Google. Avant, si je cherchais un lieu, je tombais automatiquement sur un visuel de Google Maps en haut de la page et je pouvais cliquer pour me balader dans Maps ou simplement zoomer, dézoomer tout en restant sur le résultat de recherche. Désormais, c'est terminé. À la place, on a cette image fixe, impossible de cliquer. C'est assez frustrant, vous verrez. En fait, Google a dû enlever ses liens, ses liaisons par défaut avec ses services pour ne plus mettre en avant ses propres services face aux concurrents. On a donc les mêmes conséquences, par exemple, sur Google Flight. Bon, vous pouvez toujours assez facilement, finalement, accéder au service en rajoutant Maps dans la recherche, mais l'expérience est quelque peu transformée. Résultat du DMA selon Google, cela va faire la part belle aux sites de comparaison pour trouver des hôtels, des vols. On va aussi régulièrement vous demander votre consentement pour l'association des services Google. Sur les magasins d'applications, à contrario d'Apple, Google avait déjà permis la création de magasins tiers. Même chose pour le choix du paiement. Les développeurs pourront maintenant intégrer des liens sur leurs applications pour promouvoir des offres moins chères que sur la boutique de Google. Enfin, sur les appareils sous Android, le choix du navigateur par défaut sera désormais présenté de manière plus explicite.
Merci beaucoup pour ces explications, Nathan Cocapo. Donc, Google, qui est aussi dans l'œil du cyclone, hein, du DMA, avec pas mal de modifications. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple qui est quand même assez parlant, hein, de Google Maps? Je ne sais pas si vous avez testé, mais voilà, vous tapez aujourd'hui une adresse sur Google Maps, vous n'avez plus de lien cliquable, vous ne pouvez pas zoomer dans le plan.
Alors, ça m'ennuie.
Moi aussi, ça m'ennuie, sincèrement. Et je suis un peu désolé de le dire, mais on a l'impression de revenir un peu en arrière au Google d'il y a 20 ans, où il n'y avait pas tous ces services. Parce qu'on oublie aussi un truc, c'est que Google, malgré tout, ce sont des super services. Et je pense qu'il y a peut-être une déconnexion qui se fait entre, on va dire, les têtes pensantes de ce DMA, qui voient bien évidemment la régulation, etc., et puis les utilisateurs au quotidien qui vont perdre du temps maintenant à essayer de créer un autre lien pour trouver Google Maps, etc. Ça me fait penser un peu, vous savez, à le RGPD, là. Depuis qu'il y a le RGPD, on n'arrête pas, quand on arrive sur des sites, à cliquer sur OK pour accepter les conditions d'utilisation.
Tu cliques sur OK, toi.
Qu'est-ce que tu fais?
Moi, je désactive, je dis non, je ne suis pas d'accord.
Oui, mais enfin, que tu dises oui ou non, tu es obligé de cliquer sur quelque chose.
Oui,
tu
cliques.
Voilà, et tu le fais même sans plus t'en rendre compte. Et je suis persuadé que 99% des gens cliquent sans trop réfléchir, parce que ça les ennuie de cliquer sur
OK. Oui, alors, mais chacun clique différemment. Tu vois, toi, tu cliques sur OK, lui, il clique sur pas OK. Et bien c'est ta liberté. La liberté, ça a un prix. La liberté, c'est quelque chose qui est compliqué.
Oui, mais ça casse la praticité d'un
service.
Oui,
mais moi, je vais donner un autre exemple. Alors, évidemment, il y a longtemps, quand j'étais encore chez mes parents, eh bien, quand je mangeais le soir, je descendais de ma chambre, je me mettais les pieds sous la table et le repas était prêt. C'était super facile. Pareil, quand je clique sur la map.
Tu terminais toujours ton assiette en plus, j'imagine.
Et puis, pardon ?
Tu terminais toujours ton assiette.
Je terminais probablement toujours mon assiette.
C'est très bien.
Je ne suis pas tout le temps sûr, mais bon. Et puis un jour, il a fallu partir, prendre sa liberté. Et là, il faut faire soi-même sa bouffe ou se débrouiller autrement. OK ? Bon. Et bien, c'est la même chose. Alors, en effet, aujourd'hui, on appuie sur Google Maps, il y a le lien. Mais on n'a pas la liberté. Mais si on veut avoir sa liberté, eh bien, il va falloir réinventer autre chose. Et ça va se réinventer.
Oui,
ça va prendre du temps.
Bien sûr, mais la liberté de quoi? Quelles sont les alternatives?
La liberté de choisir.
Mais rien ne t'empêche d'aller sur Maps directement. Pourquoi tu vas dans Google Recherche pour trouver une adresse? Je ne comprends même pas.
Non, mais attends, mais pourquoi tu te sers de Google tout comme moi? Quand tu es sur Google, tu as ton champ de recherche en haut, tu tapes une adresse ou une ville. Avant, c'était bien pratique en premier lieu, en premier choix,
Frédéric,
d'avoir
Maps.
Tu peux pas aller sur maps.google.com?
Oui, bien sûr, mais ça te fait...
Mais ça te fait rien. Tu vas sur le site qui correspond. Les gens sont devenus complètement fous avec cette histoire de Google. Maintenant, t'as des gens qui tapent tout et n'importe quoi.
Non, mais si. c'est...
Avant, on avait un service par besoin. T'avais besoin d'aller sur le site de ta voiture, tu tapais Renault.fr. T'avais besoin d'aller à la banque, tu tapais SNCF, Société Générale, etc. Maintenant, tout le monde tape tout dans Google. Arrêtez. Ça fait du trafic en plus pour Google. Ça le fait des revenus en plus pour Google.
Mais qu'est-ce que je m'en fous?
Mais moi,
le problème, c'est que je m'en fous, Didier.
Mais ok, ça te fait du tracking en plus. Après, ne viens pas te plaindre d'être espionné, d'avoir des cookies dans tous les sens.
Mais franchement, je me plains pas.
On ne t'interdit pas.
Moi, ça me dérange.
Moi, je suis un produit, mais en revanche, j'accède à de super produits signés Google parce que.
Mais rien ne t'empêche d'accéder aux produits.
Tu peux pas dire le contraire. Mais Google Maps, c'est le meilleur service de map aujourd'hui.
Absolument.
Tu vas sur maps.google.com et puis c'est
absolument.
Tes caprices.
On est bien d'accord. À partir du moment où on te facilite la vie et où tu ne vois que ça, ce qu'on te donne est le meilleur. Si on te donne que des carottes à manger, tu vas trouver que les carottes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis un jour, il y a quelqu'un qui te donne autre chose. Mais si, il n'y a personne qui te donne autre chose, parce que tu n'as pas le choix.
Mais c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien.
Mais pour le moment.
Quand on commence à aller sur les carottes, c'est pas bon signe, je vous le dis.
On n'est pas sur le bœuf carotte quand même.
Heureusement, mais on risque d'y arriver.
On risque d'y arriver.
Attention, d'autant qu'il est 20h27, peut-être qu'on commence à avoir un peu faim. Ce qu'on fait, c'est qu'on va retrouver l'info éco et on revient avec Didier, avec Yves et Frédéric. Je crois qu'on n'a pas terminé le DMA. Mais on a d'autres sujets. Il va falloir peut-être aussi passer la seconde parce qu'il y a aussi Elon Musk qui s'engueule avec Sam Altman. On va revenir aussi sur la panne méta d'hier. On a pas mal de sujets à évoquer, le débrief de la Q-Tech. On revient dans quelques instants. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de la tech avec ce soir Yves Maître qui est avec nous. Rebonsoir Yves.
Rebonsoir.
À tes côtés Didier Sens. Rebonsoir Didier, journaliste tech, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business bien sûr. Alors une grosse partie, première grosse partie dédiée au DMA avec cette interview exceptionnelle de Léa Zuber qui est porte-parole au sein de la Commission européenne qui est avec nous en visio tout à l'heure. Est-ce qu'on poursuit le DMA? Peut-être à enchaîner sur l'IA aussi parce que évidemment les deux sont intimement liés. C'est ce que tu disais, Fred. C'est que forcément, le DMA aura un impact aussi sur les prochaines décisions liées à l'IA de ces géants américains. Forcément.
C'est là aujourd'hui, il y a de la place pour des Français, des Européens. Parce que je pense qu'il y a d'autres endroits.
C'est mal barré. Hein. Quand on a suivi l'histoire de Mistral, on se dit que c'est pas très bien engagé. Quoi.
Oui, mais le savoir-faire, il est européen. Les ingénieurs sont européens.
Et les investissements
après sont
américains. Ben oui, et les bénéfices, ça peut.
Bah oui, mais après ça bénéficie aux entreprises françaises qui vont utiliser ces technologies et puis voilà, puis ils ont le choix. De toute façon, il y a du OpenAI, du Mistral, du Anthropic, de ce qu'ils veulent. Non, je pense que là, oui, ils entraînent leur LLM sur du Google, sur de l'américain, mais il y a quand même un moteur. Enfin, c'est les Français qui développent ça. Donc pour tout ce qui est, enfin pour moi, pour tout ce qui est biais, pour tout ce qui est savoir-faire, pour tout ce qui est formation, ça, c'est des gens qui vont rester en France. Donc là, il y a quand même un atout. Après que l'argent soit américain, bon bah oui, de toute façon, si on attend l'argent européen...
Non mais où je suis d'accord avec toi, c'est que si on prend le cas d'Apple, mais on aurait pu prendre le cas de Google Android, c'est que si on garde le fait qu'on ne soit pas ouvert sans le DMA, ben, on sera obligé de prendre l'intelligence artificielle que va nous donner Apple, payer avec Apple Pay, l'intelligence artificielle d'Apple, etc., etc. Et là, non, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est trop. Et le DMA va forcer Apple à dire, bah, il faut que vous donniez un choix d'intelligence artificielle. Bon, voilà. Alors, évidemment, on va pas changer Google Maps parce qu'en effet, ils sont super bons et voilà. Mais oui, pour les nouveaux services, typiquement l'intelligence artificielle ou des moyens de paiement, etc., on va retrouver une liberté.
Quantum as a service, hein. Le Quantum as a service, enfin, le Quantum
aussi,
as a service qui va arriver.
Aussi.
Pourquoi pas le Web 3, comme on a, qu'on sait, qui est une longue traîne et tout ça. Là-dedans aussi, il y a peut-être
mais aussi, on a vu cette semaine des grosses avancées sur les communications par satellite.
Oui.
Eh bien, ce ne sera pas celle d'Apple. Voilà, ce sera ouvert. On aurait pu imaginer que ce soit celle d'Apple ou d'Elon Musk ou autre. Mais voilà, avec le DMA, on va dire, ben non, ça, vous n'avez plus le droit.
Et puis, quelque part, je vais te dire, alors bon, c'est facile à dire de notre poste d'observateur, mais ça va un peu pousser tout le monde à se bouger un peu. Les banques qui se sont laissées un peu. Voilà, Apple sort son système de paiement. Ben oui, très bien. PayPal, il y a PayPal. Et nous, nos banques, bon, elles ont continué à vivre, mais elles ont intégré ces services. Ben, peut-être qu'elles vont réfléchir et à pousser un peu leur propre...
Il n'y a pas que les banques européennes, hein, toutes les banques mondiales ont intégré Apple Pay, parce que c'est pratique aussi.
Mais justement,
faut pas l'oublier.
Mais ça va peut-être les pousser à... Alors, je parle des banques, mais il y a d'autres domaines, mais à avoir, bah, se dire, tiens, bah, essayons de faire autrement et proposons autre chose à nos clients. Et donc là, ben bah, oui, le paiement Apple Pay, bah, peut-être que oui, Sogepay, BNP Pay, ça va les pousser à aller davantage vers l'innovation.
Et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que parmi toutes les mesures qu'impose le DMA, c'est l'ouverture aussi du wallet d'Apple.
Absolument.
C'est-à-dire que il faut savoir qu'Apple avait chasse gardée, hein, concernant le wallet.
On était obligé de payer avec la carte Apple.
C'est ça. Et toutes les banques étaient obligées de passer par le wallet.
Absolument.
Et avec à chaque fois des petits pourcentages très légers.
Mais par-delà les pourcentages, pour moi, la liberté entraîne la diversité et entraîne la création.
On a un problème, c'est que il faut le rappeler sans arrêt, le DMA, c'est européen. C'est-à-dire que les règles qu'impose le DMA sont valables en Europe. Il suffit qu'Apple ouvre son wallet au Crédit Lyonnais et que quand vous vous retrouvez aux États-Unis, ben, vous avez votre iPhone, vous ne pouvez pas payer.
Oui, alors, j'ai lu un truc sur l'App Store, justement, là-dessus.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe si tu as un iPhone européen et que tu pars aux États-Unis en vacances? En fait, il y aura une période de grâce, comme dit Apple, où ton système européen fonctionnera, même si tu es aux États-Unis, pendant une période donnée. Ils n'ont pas communiqué sur cette période, mais si tu pars en vacances, en théorie, ça devrait marcher.
Oui, mais au bout d'un certain temps, ça va être désactivé.
D'accord. Parce qu'on considérera que tu n'es plus citoyen européen. Ouais.
D'accord, très bien.
Aucune date, on ne sait pas. À partir de quel délai en fait tu perdras tous ces avantages.
Moi je crois au marché. Donc imaginons que ça se passe comme ça, que Apple dise bah, je suis désolé, vous êtes français, vous avez passé la période de grâce aux États-Unis, les services ne marchent plus. Google ne fait pas ça parce que Google va se dire bah, tiens, s'ils font ça, j'ai une opportunité de business. Donc Google va dire ah, bah, si vous venez sur Android, vous pourrez aller aux États-Unis. Qu'est-ce que va faire Apple? Il va devoir répondre. Ok. Parce que les businessmen, ils vont se dire bah, tant pis pour Apple, je passe sur Google. Donc là, le marché concurrentiel va aussi avoir son rôle de régulateur.
Espérons-le.
Et moi, je pense que c'est tout.
Ces écosystèmes sont très clivants, hein, Yves. Hein. Il y a plein de gens qui, même s'ils voient que l'herbe est plus verte ailleurs, n'iront pas changer d'écosystème parce qu'on a toutes nos photos dans le cloud, parce qu'on a toutes nos données, toute notre vie.
Et bien, justement.
Et que ça fait tellement peur de changer.
Et bien, justement, on va avoir des applications arriver qui vont faire l'interopérabilité. Et là, il y a un business. Il y a un vrai business d'interopérabilité.
On ne pouvait pas bouger, puis maintenant, tu peux facilement. D'ailleurs, tu as des obligations si tu changes le numéro de la base.
Absolument. Pareil pour les banques.
D'abonnement, de changer. Mais de changer. Voilà, de ton numéro passe et tu changes d'opérateur. Mais moi, je pense que c'est un atout sur l'innovation, parce que ça va pousser les gens à réfléchir un peu plus, à investir, à chercher un peu d'autres moyens. Je prends toujours cet exemple.
Tu ne parles pas des citoyens, tu parles des entrepreneurs.
Oui, des
développeurs.
Oui, bien sûr.
Même des géants qui s'étaient un peu reposés sur ces services en disant bah, tiens, on va vendre à travers les réseaux Facebook et tout ça. Bah, peut-être qu'ils vont se dire tiens, on va peut-être chercher à vendre ailleurs que Facebook parce qu'on est gêné par ça. On va peut-être essayer de
mais même
les réseaux sociaux. On a vu les réseaux sociaux à quelle vitesse un TikTok est apparu et a pris le pas sur tous les autres. Pourquoi pas en Europe, tout d'un coup, quelqu'un qui a une idée d'un TikTok
Mais Fred, est-ce que c'est pas trop tard?
Ouais.
C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre en place le DMA il y a 15 ans
pour le cloud?
C'est ça le souci.
Pour le cloud, moteur de recherche et tout ça.
Comment revenir en arrière aujourd'hui?
On ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. On se projette.
Impossible.
On ne revient pas en arrière.
Je prends l'exemple de TikTok. TikTok est apparu en 2 ans. Alors peut-être qu'on... Je ne sais pas qui pourra avoir une idée d'un nouveau TikTok, mais alors qu'on se disait, bon, ça y est, c'est établi, il y a Facebook, Facebook, Instagram, etc. On a vu qu'il y avait possibilité, qu'il y avait de la place pour un...
Tu es d'accord que c'est très, très rare, des TikTok.
Oui, oui, mais...
C'est très, très, très rare.
Mais dans d'autres...
Et puis Spotify. Il y a un WhatsApp qui est né aussi. Il y a une deuxième partie. Là, on regarde l'utilisateur. Mais il faut regarder aussi le développeur, c'est-à-dire ceux qui créent de la valeur, ceux qui ont des idées. Aujourd'hui, les développeurs, ils avaient une boîte à outils et ils devaient faire avec les outils que Apple leur donnait. Okay. Pareil pour Google, c'est-à-dire publicité, y compris sur les revenus. Aujourd'hui, ça aussi, ça va s'ouvrir. Donc les développeurs, les créateurs, ceux qui créent la valeur, ceux qui ont les idées, ils vont avoir plus d'outils. Ils vont pouvoir choisir avec plus d'outils. Donc quand tu as plus d'outils, tu fais plus de services, tu fais plus de choses. Alors évidemment, ça va prendre du temps. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus d'emmerde. Parce que la liberté, quand tu n'as pas l'habitude, eh ben, c'est plus d'emmerde. Parce que tu dois gérer tes problèmes tout seul. Mais demain, il va y avoir plus de services et on va se retrouver dans un monde où on aura plus d'opportunités. Mais en attendant, oui, il y a une période qui va être un peu pénible.
Non, mais j'apprécie ton optimisme, mais c'est vrai qu'on tend vers ça. Espérons-le. Hein.
Et moi, je suis assez optimiste aussi, je te dis, sur le côté innovation, et je suis toujours surpris. Tiens, je vais prendre juste un exemple, alors, qui n'est pas complètement lié au DMA, quoique. Regarde Téléperformance. Téléperformance, là, ils ont pris un gros coup en bourse. Pourquoi ? Parce qu'on découvre.
Alors, rappelons ce que c'est Téléperformance.
Téléperformance, c'est.
C'est pas une télé qui est super performante.
Non, c'est des services de téléopérateurs que les entreprises, le centre d'appel d'une assurance.
C'est une boîte qui sous-traite des hotlines.
Voilà, qui sous-traite des hotlines avec des téléopérateurs. Ils en ont 320 000 à travers le monde. D'accord. C'est une des plus grosses boîtes dans ce domaine-là. La semaine dernière, on apprend que Klarna, un opérateur suédois, je reviendrai dessus, a remplacé 700 téléopérateurs par une intelligence artificielle. Téléperformance, du coup, chute en bourse, 30%, le cours suspendu, etc. Klarna, c'est pas un téléopérateur, c'est une fintech. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les gens doivent vraiment se réfléchir sur des nouveaux modèles, même si c'est pas leur secteur. Et là, c'est pour ça que je parlais des banques, c'est pour ça que on parle des sociétés dans l'énergie. On a nos GAFAM à nous, là, dans le luxe et tout ça, qui doivent repenser peut-être un modèle de distribution différent de leurs produits et tout ça. Moi, pour moi, ça va pousser un peu l'innovation en se disant, voilà, il y a autre chose.
Ouais, on va arriver à un problème que ne règle pas le DMA et que d'ailleurs aucun régulateur européen n'a encore réglé à ce jour, c'est la concentration et le fait que quand les GAFA, avec le trésor de guerre qu'ils ont, ils arrivent en Europe et toutes les petites pousses, les petites start-up innovantes que tu dis, ils les rachètent, ils les utilisent à leur profit et après...
Ouais. C'est là où parfois l'État doit être un peu plus puissant et ne pas laisser partir certaines entreprises. On a des pépites qu'on a laissées partir. Les Allemands se sont battus, mais ils n'ont pas réussi avec le Chinois Kuka, là, qui a fini par des capitaux chinois. Bon, maintenant, on a du Kuka partout, dans les robots, hein, les bras robotiques. Bon, voilà, après, il faut avoir le courage de pourquoi pas, on en a parlé l'autre jour, dire d'un Atos, tiens, la partie Atos, cyber, supercalculateur et cloud, nationalise.
Ouais, mais c'est discutable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, on avait empêché Yahoo de racheter Dailymotion. Bon, est-ce que c'était une bonne idée de conserver Dailymotion ? Je suis pas persuadé. Peut-être que si Yahoo avait racheté Dailymotion,
c'était il y a 10 ans.
Ouais, mais
c'était Dailymotion ou Deezer ?
Non, c'était Dailymotion.
Dailymotion, ouais. Et c'est Orange qui avait récupéré.
C'est Orange, mais qui avait été un peu obligé de récupérer ce truc-là, en fait. Hein. C'était un peu le boulet. Ouais,
mais justement,
ça a été le boulet d'Orange pendant des années et des années, hein, Dailymotion.
Ah oui, d'accord.
Enfin bref, donc voilà, une décision trop politique.
Enfin, on parle pas de ça. Moi, je parle vraiment des petites startups innovantes. Il y en a plein, par exemple. Qui ont travaillé sur les capteurs, sur les écrans tactiles, sur des technologies de pointe et qui sont maintenant dans le giron d'Amazon, d'Apple, de Microsoft, etc.
Voilà. Bon, si on parlait maintenant de ce fight entre Elon Musk...
Encore, tous les soirs, c'est Sam le Altman. Elon Musk Festival.
Oui, voilà. Parce qu'il faut savoir que face aux dernières accusations d'Elon Musk contre OpenAI, Sam Altman se défend et a réagi publiquement à ces attaques. Le patron de X et Tesla estime en fait que l'entreprise n'a pas respecté les premiers accords comme le développement de l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité sans réaliser de profit. Ce que dément bien sûr Sam Altman.
Ouais, enfin, je t'interromps, il n'y a pas que Sam Altman dans le coup. C'est vraiment OpenAI et les fondateurs qui ont réagi.
Ouais, hein.
Ça ne sert à rien de personnaliser ça parce que vraiment, il a pris parti pour la boîte. Quoi.
Petit reportage qui a été réalisé par Léa Arrojo qui nous explique cette affaire et après, on écoutera tes commentaires, Didier.
Nouveau bras de fer entre Elon Musk et Sam Altman, le père de ChatGPT et OpenAI censure face aux accusations du fondateur de Tesla. Fin février, Elon Musk a attaqué en justice OpenAI, société qu'il a cofondée en 2015. Selon lui, l'entreprise a abandonné sa première mission, être une organisation à but non lucratif pour promouvoir l'intelligence artificielle à travers le monde gratuitement. Elon Musk se dit trahi par le tournant commercial d'OpenAI depuis son alliance avec Microsoft. Mais Sam Altman, lui, nie toutes ces accusations. Preuve à l'appui, Altman a publié des emails échangés avec Musk lorsqu'il faisait encore partie de la société. Dans ces échanges, Elon Musk approuve l'idée d'une entité à but commercial et dans un autre email, il appelle à une levée de fonds, ce qui irait donc à l'encontre de sa plainte actuelle qui réclame le retour à une organisation à but non lucratif. Depuis le lancement de ChatGPT, les tensions entre les deux hommes d'affaires se multiplient. Lorsque Sam Altman a dévoilé son chatbot, Musk a exprimé son inquiétude face au danger de l'intelligence artificielle. Il a ensuite lancé son propre chatbot, Croc, et XAI, sa société, pour concurrencer OpenAI.
Alors quand on écoute tout cela, c'est encore plus incompréhensible cette histoire-là, parce que au départ Elon Musk se plaint auprès de Sam Altman parce que justement OpenAI est en train de perdre sa fibre, on va dire presque fondamentale, hein, d'open source et
son ADN,
d'intelligence artificielle pour l'humanité en quelque sorte. Sauf que on a retrouvé, l'équipe d'OpenAI ressort exhume des vieux mails de 2018 où Elon Musk dit bah oui, il faudrait que ce soit une entreprise commerciale, quoi. Donc là, franchement, il se ridiculise un peu. Enfin, si tout ça est vrai, non ? Mm-hmm. On sent qu'il est tellement énervé du succès d'OpenAI qu'il a co-créé, finalement, puisqu'il était à la genèse, en fait, de ce projet, et qu'il en est sorti très vite. On a l'impression qu'il n'arrive pas à digérer le truc, le gars.
Elon Musk, c'est le Booba de la tech. C'est le mec qui
c'est crache. C'est un enfant gâté de la tech.
Mais il crache sur tout le monde. Qui trouve grâce à ses yeux ? Sincèrement, personne.
Trump.
Il s'en prend aux uns. Oui, alors, et encore, même Trump. Il s'en prend aux uns, aux autres, etc. Alors, évidemment qu'il y a un enjeu marketing derrière, évidemment qu'il y a un enjeu d'ego. En fait, ce qui l'embête, c'est que la boîte a un énorme succès depuis qu'il s'est barré. Donc, c'est ça qui le gêne. C'est qu'il ne supporte pas, ayant été à la création d'OpenAI, puis ayant été débarqué parce que justement il avait proposé un modèle économique différent.
Mais il y a beaucoup de rancœur dans ce truc-là.
Voilà, parce que... il s'aperçoit aujourd'hui que la boîte cartonne du feu de Dieu et que lui il est un peu en rade. Franchement, son groc, je sais pas, vous y croyez vous
pour l'instant? Déjà rien que le nom, c'est pas facile.
C'est ça, il veut faire du coup, il veut faire un groc en jambe à OpenAI.
Oh,
ça.
Yves Maître, bravo.
Ouais, c'est du niveau.
Félicitations.
Niveau François.
Je retiendrai deux choses, Yves. Les corons ce soir.
Ouais. Les carottes.
Pierre Bachelet. Les carottes. Et ta petite blague.
Donc tout ça pour dire que c'est un énième épisode des crises de folie d'Elon Musk. Il ne faut pas y prêter plus d'attention que ça. Et je pense qu'ils ont très bien réagi chez OpenAI, même si on peut, sur le fond, trouver effectivement que...
On est d'accord qu'il y a quand même un
l'idée philosophique d'OpenAI au début, qui était d'être un truc humaniste...
Maintenant, c'est une filiale de Microsoft, on est d'accord.
Ouais, on va le dire comme ça, c'est vrai.
Ouais, non. C'est justement là où... Parce que il y a en effet les histoires de famille, c'est Dallas, dans la Silicon Valley. Ok, c'est des histoires entre milliardaires, ils se débrouillent. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens, à part un certain nombre de magazines.
Ça nous fait sourire, nous.
Maintenant... Si on regarde, parce que derrière, il y a quand même des cabinets. Il y a des cabinets de conseil, il y a des avocats. Enfin, il y a quand même du lourd derrière. Alors, on peut se poser la question, se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et moi, je vois deux choses. La première, c'est la question que tu poses. Est-ce qu'OpenAI est toujours libre ou est-ce qu'OpenAI est une filière cachée derrière Microsoft? Okay.
Et quel est ton avis, Yves?
J'ai pas d'avis.
D'accord.
J'ai pas d'avis. Là, il faut vraiment regarder les documents, il faut regarder du droit. Et je pense qu'Elon Musk, en faisant ça, va pousser Microsoft à devoir mettre sur la table un certain nombre de documents.
D'informations, d'accord.
Et je pense que...
Oui, parce qu'il traîne... Il traîne en justice OpenAI, ça va.
Absolument.
C'est pas qu'une rixe comme ça,
non.
Par tweet interposé.
Voilà,
hein.
Parce qu'il pourrait faire une rixe comme ça. Mais là, ça va plus loin.
Oui.
Et l'objectif, c'est que chacun dévoile les choses. Et on a vu, OpenAI a dû dévoiler un certain nombre d'emails.
Oui.
Et donc, il va y avoir comme ça des pièces qui vont tomber sur la table. Donc la première chose, ça va être de regarder les pièces qui tombent et d'alimenter un problème d'anticoncurrence ou de contrôle indirect.
Tout ça pour gêner Microsoft.
C'est un autre procès. Pour gêner Microsoft. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose,
c'est sous-jacente à tout ça, qu'est-ce que l'intelligence générale? Est-ce que OpenAI, puisque le frame, c'est on veut faire une intelligence générale open source. Et donc, une des questions que va devoir se poser le tribunal, c'est est-ce que c'est de l'open source? Ça, on sait ce que c'est, l'open source. Mais est-ce que c'est une intelligence générale ou pas? Et donc, ça va obliger le droit américain de se poser la question de ce qu'est une intelligence générale. Et ça, d'un point de vue juridique. Et ça, c'est relativement important. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence générale? Est-ce que OpenAI a déjà passé la frontière ou pas? Et où est la frontière? Et je pense que le droit américain va devoir, suite à ça, à se pencher sur cette question. Et c'est une conséquence probablement indirecte, mais probablement voulue par les avocats qui sont derrière Elon Musk. Donc je pense qu'il y a ces deux batailles-là qui sont cachées
sous le grand show des deux entreprises.
Moi, j'enverrais même une troisième, c'est la partie technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elon Musk, il a besoin de toute cette technologie-là. Il se rend compte que là, OpenAI a pris un coup de boost. Enfin, OpenAI et Microsoft ont pris un coup de boost. Que Google, quand même, avec son Gemini, commence à avancer. Qu'on a des anthropiques qui sont en train d'arriver. Qu'on voit des petits Français, mais il y a en Allemagne. Il doit y en avoir aussi en Corée du Sud. On n'a pas regardé. Et là, il se dit, oula, je suis en train de prendre comment je peux faire pour essayer de rattraper un retard. Et bien, si tu les attaquais un peu, déjà, tu vas les freiner, puis tu vas peut-être réussir à récupérer 3-4 bouts. Donc, je pense aussi qu'il peut y avoir ce type de bataille aussi.
Alors, on va la suivre. Ça va durer sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, puisque voilà, tout ça rentre en justice. Autre sujet, puisqu'on est dans l'IA, l'un des concurrents de ChatGPT, eh bien, c'est Claude. C'est une intelligence artificielle dont la dernière version vient d'être dévoilée. Et selon ses créateurs, elle surpasserait ChatGPT dans à peu près tous les domaines. Anthony Morel nous explique tout ça et on écoute les avis de nos experts juste après.
En tout cas, ils disent qu'ils ont mis au point l'intelligence artificielle générative la plus performante au monde, plus performante que GPT-4, donc le modèle de référence aujourd'hui. Alors, c'est facile à dire, ça c'est de la com. Comment est-ce qu'on le prouve derrière ? Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a des benchmarks industriels de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on fait passer à ces différents modèles de langage des tests standardisés, des tests de compréhension de texte, d'analyse, d'écriture. On compare la qualité et effectivement, sur tous ces paramètres, ou presque, eh bien Claude 3, c'est le nom de cette IA, est plus performant que ChatGPT. Donc par exemple, pour de la résolution de problèmes mathématiques à différents niveaux scolaires, ça va être aussi sur de la compréhension de texte et en tirer un raisonnement, écrire du code informatique également. Il est plus performant sur toutes ces métriques-là. Pour résumer un texte aussi, alors ChatGPT sait le faire, mais on lui donne un texte de 3000 mots maximum, c'est sa limite, c'est déjà pas mal. Claude, c'est 150 000 mots.
Ah oui.
Donc c'est un bouquin de plusieurs centres. Exactement, qu'il ingère. Et alors très très rapidement, c'est-à-dire que par exemple sur les tests qui ont été réalisés, un article scientifique très ardu avec des graphiques, il est capable de l'ingérer en 3 secondes.
Ah
voilà.
Oui.
Parce qu'il peut aussi prendre en compte et analyser des images. Donc voilà, pas mal d'avantages face à la concurrence.
Voilà les explications d'Anthony Morel concernant Claude qui arrive en 3 versions. Hein. Enfin, il y a la petite, la moyenne et la surpuissante. Hein. Je crois que la version surpuissante s'appelle Opus, qui elle pourrait tutoyer cette fameuse intelligence générale, hein, qui est un peu le graal de toutes ces têtes pensantes qui imaginent l'intelligence artificielle. Tu as testé ?
Alors, j'ai pas testé moi-même, mais j'ai un copain qui m'a fait une démonstration depuis les États-Unis. Effectivement,
c'est pas encore disponible en Europe.
Non, on peut pas y accéder avec un ordinateur, ou alors il faut passer par un VPN, c'est un peu compliqué. Et en fait, sa démonstration était pas mal parce que c'est vrai que c'est très rapide. C'est vrai qu'il lui a produit un énorme document PDF et que ça a pris 15 secondes à ce qu'il le lise et qu'il en fasse un résumé, qu'il sorte les éléments essentiels. Donc ça, c'est assez bluffant, c'est la rapidité. Maintenant, sur la pertinence, je suis plus réservé. On s'est amusé. Je lui ai demandé un moment, on essaie de faire de poser la même question à ChatGPT. Alors il est en version 4.0 et ChatGPT est quand même plus performant sur des questions abstraites ou sur des questions
de raisonnement,
de mise en forme. Oui, il est plus pointu. Il apporte parfois plus de détails que Claude. Mais Claude, il y a un truc qui m'a bluffé, c'est qu'à un moment il lui dit est-ce que tu peux me... Il lui dépose une image et il lui dit est-ce que tu peux me décrire cette image et me dire qui sont les personnages qu'il y a sur la photo. Et le truc s'en sort vraiment très très bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça rappelle un peu ce que Gemini est censé pouvoir faire. Donc voilà, c'était assez bluffant. Donc je retiens rapidité, mais pertinence, il y a encore un peu de chemin à faire.
Rappelons, Yves, que derrière Claude se cache une start-up, une belle start-up qui s'appelle Anthropic, qui a des investisseurs très variés. Hein. Ça va de Google à Amazon, enfin, même des concurrents sont investisseurs de cette boîte-là. Est-ce que tu penses que Claude a un avenir radieux, toi, dans paysage de l'IA générative ?
Moi, je pense que Claude, c'est des joueurs très, 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 très sérieux. D'ailleurs, Amazon les a... Oui, Google et Amazon. Donc il y a Microsoft, OpenAI, Google, Amazon avec Claude. Oui. Donc c'est vraiment des gens à retenir.
Google devra faire un show un moment puisqu'il est il est sur Gemini, donc
oui, il faudra qu'il fasse un choix. Ouais. Et en Gemini, en ce moment, c'est pas terrible, hein, visiblement. Hein.
Ouais, moi, y a...
Même Sundar Pichai, le patron de Google, a engueulé ses équipes parce qu'il n'était pas content de ce qui sortait.
Après,
pour terminer, Fred.
Après, c'est ce qu'on va vouloir en faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit toutes les plateformes. Je rencontre encore dans Tech & Co Business ce week-end, il y a le patron de Dell Technologies France qui est là et qui explique pourquoi il signe avec Hugging Face, pourquoi il signe avec Mistral, pourquoi il signe avec Lighton. On voit un peu toutes ces entreprises qui vont proposer, selon l'usage qu'on va en avoir, on utilisera du Mistral, on utilisera de l'OpenAI parce qu'on va faire de la bureautique avec Copilot, on utilisera de l'anthropique, enfin du cloud.
Donc on n'est pas sur l'IA générale.
Non, pour moi, on va vraiment avoir, selon les cas, par rapport à des processeurs, est-ce qu'on va prendre du Nvidia, est-ce qu'on va prendre les processeurs Google pour telle partie, est-ce qu'on va prendre de la CPU beaucoup plus simple pour tel type de calcul. Je pense qu'on va avoir vraiment ces différentes IA, ces différents, on va avoir des différents profils en disant bah tiens, pour tel type de calcul, pour des résumés de documents, c'est plutôt ça, pour des calculs scientifiques, c'est plutôt ça. Et je pense qu'on va aller les opérateurs, enfin les hyperscalers, mais même un Dell, voilà, vont proposer tout ça, sachant qu'aujourd'hui, on essaie de rapprocher en plus, beaucoup plus, le traitement de la personne, hein, d'être en edge, voilà, de faire le calcul en plus en local.
Voilà, merci pour ce beau débrief. Merci Maître.
Merci.
À bientôt Yves. Merci à Didier Sens, aussi journaliste tech. Et merci à Fred Simotel.